J'aimerais m'attarder un peu aujourd'hui sur ce que certains appellent la théorie du mort kilométrique. Une théorie qui se vérifie malheureusement souvent dans ce monde à feu et à sang, où s'ajoutent aux victimes des différentes guerres, celles du terrorisme religieux ou du terrorisme d'État, ou encore celles de l'injustice économique, de l'égoïsme des nantis, du libéralisme sauvage. Et que dit exactement cette théorie du mort kilométrique ? Eh bien, comme son nom l'indique, celle-ci prétend que plus le mort est éloigné géographiquement, moins il suscite d'émotions. Quand un avion d'une compagnie allemande ne transportant que des Européens s'écrase dans le sud de la France, terrible catastrophe survenue il n'y a pas si longtemps, l'émoi est à son comble sur tout le continent et s'étale sur des pages et des pages de la presse, fait la une des différents journaux télévisés durant les jours qui suivent et même les semaines et j'en passe. Ceci alors que dans le même temps, autant d'hommes et de femmes, africains ou asiatiques, périssent presque quotidiennement en mer Méditerranée ou dans l'océan Pacifique. Ce qui ne provoque qu'une vague, sans jeu de mots, qu'une vague indifférence, ou au mieux un intérêt poli des plus sensibles d'entre nous. Bien entendu, vous me direz que cette différence dans le degré de compassion est légitime. Je dirais personnellement qu'elle est plutôt et malheureusement naturelle, ce qui n'est pas pareil. Avec des exceptions néanmoins, pour preuve le tremblement de terre qui a frappé récemment le Népal, une catastrophe naturelle qui a mobilisé les bonnes volontés et suscité passablement de réactions aux quatre coins de la planète et en particulier dans le coin riche qui est le nôtre. Ceci peut-être parce qu'en l'occurrence et au contraire des migrants se noyant au large de l'Italie, notre responsabilité ne semble pas engagée. L'ennui, et c'est là que ça devient pervers, c'est que la Terre ne s'est pas contentée de trembler une fois. Comme on pouvait en effet le lire dans la presse quelques jours seulement après la fin de l'opération Chaîne du Bonheur, un deuxième violent séisme a éprouvé le Népal. Ce qui fera dire aux plus altruistes que c'est décidément pas de veine et que le malheur frappe toujours les mêmes. Ce à quoi les plus cyniques rétorqueront peut-être qu'un séisme ça va, mais que deux, faut pas exagérer non plus, et que les Népalais devraient faire un peu attention. Et malheureusement pour les malheureux précités, l'aide internationale, déjà longue à se mettre en place, ne prend en considération que la première catastrophe. Un forfait, en quelque sorte, les candidats à l'aide ne pouvant revenir en deuxième semaine. Ceci peut-être pour éviter des commentaires acides des généreux donateurs blasés du genre « on a déjà donné ». Ce qui n'est finalement qu'un retour à la normale à cette fameuse théorie évoquée en début de chronique. Car si le premier tremblement de terre a fait trembler les bonnes consciences très loin de son épicentre, le second séisme tout aussi violent n'a eu droit qu'à une ou deux mentions, vite reléguées aux oubliettes, par une actualité qui nous touche de plus près et qui est tout de même plus importante. Comme en témoigne cette une d'un tabloïd orange ce mardi, nous apprenant que le prince William, en personne, que le prince William donc était en visite à Gland. Un honneur pour une petite commune romande qui en a surpris plus d'un. Mais pourquoi le prince William était-il en visite là-bas ? D'où peut lui venir cet intérêt pour Gland ? Eh bien, sincèrement, on ne sait pas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que son père, enfin ça reste à vérifier, que son père, le prince Charles, n'aurait jamais envoyé sa mère, Lady Diana, en visite à Gland. Le pauvre Charles connaissait en effet trop bien son ex-épouse. Elle ne se serait pas contentée d'une visite, elle y serait restée.